À partir des années 1950, les studios de prise de son vont passer d'un enregistrement d'un orchestre avec un unique micro au multipiste. Et c'est après-guerre que la stéréo va enfin se développer commercialement. En 1955, la société Ampex, connue pour produire des magnétophones de haute qualité et le premier magnétoscope professionnel, construit le premier magnétophone multipiste. 8 canaux audio indépendants. Une révolution. Il devenait possible de lire la bande tout en réenregistrant une piste afin de parfaire la musique, mais aussi de refaire le mix sans avoir les musiciens en cabine. Le premier client pour cet engin multipiste fut le guitariste Les Paul, qui fit construire par un copain une table de mixage 8 pistes qui lui permit d'ajouter des effets. Les Paul fut d'ailleurs un des pionniers du micro de chant à moins de 15 cm de la bouche, le close miking, qui donne un son plus intime et avec moins de bruit parasite et de réverbération, donc plus propre. Du multipiste vers un enregistrement stéréo, il n'y a qu'un bouton rotatif sur la table de mixage. Chaque piste a un réglage dit pan qui permet de le placer dans le mixage final, soit à gauche, soit à droite. À peine le son stéréo commence à s'ancrer au cinéma à la fin des années 50 que des grands studios essaient déjà différentes positions de haut-parleurs dans la salle pour un son plus immersif. La restitution va passer de la stéréo au surround 5.1. 5 canaux son, un derrière l'écran, un de chaque côté de l'écran et deux à l'arrière de la salle, plus un canal
pour les basses.
Par la joie de cette deuxième dimension, on peut entendre venir un méchant derrière sa tête ou faire siffler une flèche de l'arc à l'écran à loin, au fond de la salle. Et les formats surround se multiplièrent. THX, DTS et SDDS tentèrent de faire concurrence à Dolby. Et chacun joue à la surenchère en démultipliant les canaux, proposant du 7.1 puis du 9.1. Actuellement, la télé Super HD de la NHK fait joujou avec le format Hamasaki 22.2. Ouais, 22 haut-parleurs à disséminer devant votre télé. Vous avez un grand salon, j'espère ? La situation risque de devenir impossible pour installer autant de haut-parleurs, d'ailleurs surtout dans un appartement Tokyo Heat. L'idée est alors venue d'avoir des pistes son qui n'imposent plus la position des enceintes, mais des canaux de sources indépendantes. Et qu'on ajoute en métadonnées la position spatiale d'où ce son est censé venir, le pan de la table de mixage. En clair, que le mixage soit adapté à la géométrie de la salle, le son rendu recalculé par l'amplificateur qui connaît la géométrie de la pièce et la position des haut-parleurs. C'est le système Dolby Atmos et son concurrent DTS:X qui considèrent non pas une piste mixée, mais des samples audio traités en objets à mixer vers la constellation de haut-parleurs installés un petit peu partout comme vous avez pu. Entre le ficus, là, l'interphone, mince, et derrière le frigo, là-bas. Je suis très fier d'avoir réussi à placer quelques tweeters là, à côté du frigo. Avec le Dolby Atmos, on a une idée de ce qui est effectivement travaillé et mixé par les ingénieurs du son des grands studios de cinéma. Et ceci, involontairement, grâce à une bande-annonce. Celle du film La Momie 2 avec Tom Cruise, qui a donné un aperçu étonnant. Cette bande-annonce a été envoyée par la Major sur YouTube au format Dolby Atmos par erreur. Or, le Dolby Atmos n'est pas géré par YouTube. Et là...
Plantage.
Les logiciels de conformation de YouTube ont traité le sonore comme un mixage en 5.1 et n'ayant pas vraiment compris les métadonnées géométriques et ignorant les niveaux sonores à modifier. On entend chaque source son bien distinctement et on y a entendu un véritable massacre. Chaque piste son était dégueulasse, avec du bruit ambiant, comportant des éléments étrangers ou des cuts parfois très secs.
Pan, 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 this is November 4, 0, 9, or 9.
What the hell?
Bref, le Dolby Atmos livré ressemble pas mal à une grosse flemme de polissage du rendu final. Une fois de plus, On a eu la démonstration que les contenus réellement de qualité dans des formats aussi exigeants sont extrêmement rares. Un peu comme les albums ressortis en DVD audio HD, son 5.1, 96 kHz sur 24 bits, qui sont hélas bien souvent un regonflage artificiel d'un son analogique bien au-delà des capacités réelles des enregistrements originaux, et finalisés comme des porcs en ayant recompressé comme des sourds. Oh.